Vous écoutez France Musique.
Aujourd'hui, Teddy Wilson avec Louis Mastier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 119e émission du Matin des musiciens de jazz du mardi. Aujourd'hui encore, c'est un pianiste qui nous intéresse, un maillon essentiel de l'histoire de cette musique. Et pourtant, Teddy Wilson ne jouit sans doute pas aujourd'hui de la notoriété de certains de ses confrères, comme ses aînés Fats Waller et Art Tatum, ou ses cadets Errol Garner et Oscar Peterson. En a-t-il jamais bénéficié, hormis la courte période où il fut associé au populaire clarinettiste Benny Goodman, le roi du swing, dans la seconde partie des années 30. Le rôle artistique de Teddy Wilson fut pourtant capital dans la réunion de splendides petites formations à l'instigation du producteur John Hammond, où l'on apprécie en toute liberté les meilleurs solistes du moment. Ben Webster, Roy Eldridge, Stu Berry, Benny Carter, Johnny Hodges, Lester Young, entre autres, sans oublier la jeune Billie Holiday. Moins démonstratif que d'autres, l'art de Teddy Wilson résulte d'une habile combinaison d'inventions préexistantes. À la main gauche en dixième de Fats Waller, il associe en effet le phrasé détaché de main droite de Earl Hines dans un environnement harmonique et virtuose qui doit beaucoup à l'amicale influence de Tatum. Sur ses fondations, Teddy Wilson construit un langage d'une limpide clarté, d'une logique imparable, servie par une technique qu'il devait à une solide formation classique. Après-guerre, il sera d'ailleurs l'un des premiers à enseigner le piano jazz au sein d'un établissement new-yorkais prestigieux, la Juilliard School. Mais avant cela, il avait déjà fait école auprès de ses contemporains, fasciné par son sens de l'espace, comme par sa manière personnelle de faire chanter ses lignes de main droite dans un contexte d'une grande liberté rythmique. Et pour évoquer cet art subtil et délicat, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois dans cette émission un spécialiste du piano jazz de cette période, le pianiste Louis Mastier. Bonjour Louis.
Bonjour Arnaud.
Est-ce qu'on peut dire que Teddy Wilson est un petit peu le petit frère de Fats Waller, de Earl Hines et de Art Tatum? Ils sont tous un peu plus âgés que lui?
Le petit frère d'Art Tatum peut-être, mais le fils de Fats Waller et d'Earl Hines plutôt.
Fils spirituel.
Fils spirituel.
Comment l'histoire commence avec Teddy Wilson? Il est originaire du Texas, on ne pourra pas le qualifier de pianiste texan, ce n'est pas vraiment ce qui est le plus définitif dans son œuvre.
Non, pas du tout. Enfin, si on entend par texan le sens du blues et tout ça, c'est jamais quelque chose qui est très franchement exprimé chez Teddy Wilson. Bon, il est né au Texas, il a pris des leçons de piano assez rapidement et il s'est intéressé à la musique très tôt.
Il a une solide formation de musique classique, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de tous.
Loin de là, à son époque, nombreux étaient les musiciens qui étaient autodidactes et qui ont dû ensuite se former plus tard.
Et effectivement, il est dans une école spécialisée pour les Noirs, hein, parce que évidemment, il n'y avait pas de mixité raciale. Il a déménagé plusieurs fois. Là, c'était en Alabama, qui était un contexte pas forcément facile, précisément, pour les Noirs.
Certainement pas. Mais il a appris à jouer de plusieurs instruments, pas uniquement du piano. Il jouait aussi du hautbois, de la clarinette, du violon. Au départ, il avait commencé avec le violon.
Et puis le piano, Chopin, Jean-Sébastien Bach. Et puis il a le coup de foudre, c'est un coup de foudre familial. C'est son frère qui lui fait découvrir le jazz.
Oui, il a un frère aîné qui aime bien le jazz et qui rapporte à la maison quelques 78 tours des grandes vedettes de l'époque, comme Armstrong, l'orchestre d'Ellington, Bix Beiderbecke avec ses amis Joe Venuti, Frankie Trumbauer, Fletcher Anderson, Coleman Hawkins, et puis des pianistes. Et les deux pianistes qui vont réellement décider de la carrière de Teddy Wilson, c'est Fats Waller et Earl Hines.
Alors on va retracer toute cette belle histoire de Teddy Wilson, qui est né en 1912 et qui nous a quittés en 1986. Mais pour rentrer en matière, je vous propose, Louis Mastier, de commencer par la fin, en quelque sorte. En tout cas, nous sommes en 1959. Ici, il est en trio avec le contrebassiste Major Rollet et le batteur Bert Dallader. C'est une formule qu'il affectionnait particulièrement dans la deuxième partie de sa carrière. Ça s'appelle Sunny Morning, c'est une de ses compositions.
Thank you.
1959, le trio du pianiste Teddy Wilson avec Major Roley à la contrebasse et Bert Dallader à la batterie. Ça s'appelait Sunny Morning. C'est une composition du pianiste Teddy Wilson. Ici, on entend vraiment toutes les voix. On entend très clairement chaque note. C'est un piano d'une rare élégance, Louis Mastier.
Comme chez tous les grands techniciens, on entend parfaitement toutes les notes. Aucune n'est escamotée. Elles sont jouées d'une façon très belle. Chaque note a son poids. Enfin, on est pratiquement dans un pianisme d'un pianiste classique.
Une grande clarté, une grande limpidité. Évidemment, il a eu des inspirateurs. On l'évoquait juste avant d'écouter cette interprétation de 1959. Parmi les deux premiers inspirateurs du style de Teddy Wilson, il y a Fats Waller et Earl Hines. Alors, qu'est-ce qu'il va chercher chez Fats Waller ?
Il a compris le sens de la main gauche et de l'utilisation des dixièmes en particulier.
Alors la dixième, c'est quand on joue à la fois à la main gauche, non pas une note et son octave supérieure, mais qu'on va chercher encore un petit peu plus haut, par exemple de do jusqu'au mi de l'octave supérieure.
Voilà, par exemple.
Et puis on peut enchaîner comme ça des dixièmes, vous le montrerez peut-être tout à l'heure au piano, Louis.
Oui, oui.
On peut enchaîner des dixièmes.
Dans ce morceau de Fats Waller qu'on va écouter tout à l'heure, il y a cet enchaînement de dixièmes comme ça, assez répétitif dans l'exposé du morceau. Ça, Teddy Wilson l'a très bien compris et il va en faire une utilisation beaucoup plus importante que Fats Waller.
Et parmi les interprétations de Fats Waller qui ont frappé le jeune Teddy Wilson, il y a bien sûr Handful of Keys. Handful of Keys, Fats Waller en mars 1929. On entend bien ces enchaînements de main gauche avec à la fois la fondamentale à la basse et puis la tierce, mais une octave au-dessus, c'est ça Louis Mastier ?
Il utilise ce procédé assez fréquemment en Fats Waller, mais là, c'est le disque qui va décider Teddy Wilson à se diriger vers cette technique.
Et puis à peu près à la même époque, Earl Hines enregistre les 57 Varieties. C'est un jeu de mots hein, avec une marque célèbre de condiments. Il y a 57 variétés possibles de ce condiment. Earl Hines, alors lui, ce n'est pas tout à fait la même technique pianistique. Hein, et ce n'est pas la même chose que va retenir Teddy Wilson chez lui.
Teddy Wilson va surtout utiliser la main droite d'Earl Hines pour utiliser ce phrasé très particulier qui se rapprocherait déjà de la trompette. Lui, il va l'utiliser moins avec les octaves que ce que Earl Hines fait. Il va utiliser plutôt des single notes, c'est-à-dire des notes seules, ou alors des petits accords ou des petits groupes de temps en temps, mais pas des octaves systématiques comme Earl Hines. Mais de toute façon, il va reprendre ce phrasé de main droite.
Un extrait de 57 Varieties, le pianiste Earl Hines en décembre 1928, un autre inspirateur pour le jeune pianiste Teddy Wilson, qui a 16-17 ans à cette époque-là. Très vite, il va devenir professionnel, il faut dire qu'il avait déjà une solide formation de pianiste classique, et au début des années 30, il est déjà professionnel.
Oui, il joue avec son frère, c'est lui qui l'aspire dans différents orchestres locaux, puis ensuite dans un orchestre plus important, celui de Speedwell, où il trouve en particulier Roy Eldridge et Vic Dickinson à ses côtés.
Qui sont déjà des solistes reconnus à l'époque.
Oui, 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 mais des jeunes loups comme lui. Et puis après, il est engagé par un chef d'orchestre qui s'appelle Milton Senior et il part en tournée dans le Middle West. C'est ainsi qu'il arrive à Toledo, dans l'Ohio.
Et qu'est-ce qu'il y a de spécial à Toledo pour les amateurs de piano ?
À Toledo, il se
répandait comme une traînée de poudre.
Il y a tout ce qu'il faut pour rendre un pianiste fou. Il y a Art Tatum.
Qui n'est pas encore connu, mais chez les musiciens, ça circule. On sait que si on s'arrête à Toledo, on va voir un phénomène.
Absolument. L'orchestre de Fletcher Anderson le savait.
Et c'est ce que fait Teddy Wilson. Il est, comme tout le monde, très impressionné par Tatum, par la virtuosité, par la facilité, par l'extraordinaire pianisme.
Ah oui, le ciel lui tombe sur la tête, hein. C'est vraiment, il n'a jamais vu ça. Il suit Art Tatum comme un toutou, et Tatum se prend d'amitié pour lui, il est un peu plus âgé que lui, et il lui permet de regarder tout ce qu'il fait. Il recommence pour mieux lui montrer si Teddy Wilson n'a pas bien compris. Teddy Wilson a même le droit de se mettre derrière Art Tatum pour regarder par-dessus ce que font les mains. C'est le début d'une très grande amitié entre les deux hommes.
Art Tatum, au début des années 30, c'est à peu près cela. St. Louis Blues, enregistré en mars 1933 par Art Tatum. Teddy Wilson est très influencé par Art Tatum, mais précisément dans quelle matière, Louis Mastier ?
Tatum a influencé Teddy Wilson particulièrement en ce qui concerne l'harmonie. Évidemment, la virtuosité a beaucoup intéressé Teddy Wilson, d'autant qu'il était capable de faire un certain nombre de choses que Tatum utilisait couramment. Comme
les traits de la main droite, par exemple.
Les traits de la main droite. Oui. Il avait suffisamment de technique pour le faire et il a certainement appris très rapidement ce genre de choses. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'était l'utilisation harmonique de l'instrument et la transformation que Tatum inflige à tous les morceaux par des harmonies dérivées. Teddy Wilson ne trouvait pas ça chez Orleans ni chez Fats Waller.
Alors comment vont-ils évoluer chacun de leur côté ? Est-ce qu'ils vont avoir une évolution parallèle, similaire, contradictoire ? Parce que finalement, ils ont pratiquement le même âge à 3 ans près.
Teddy Wilson va s'orienter de plus en plus vers un jeu qui est celui des pianistes d'orchestre. Les choses sont différentes pour Tatum, qui est aveugle, qui ne peut pas avoir le même genre de vie que Teddy Wilson, partir partout avec des orchestres, c'est plus compliqué.
Et qui va peut-être accentuer encore davantage la virtuosité purement pianistique.
Voilà, il va s'orienter vraiment vers le piano solo, pour extraire d'un piano tout ce qu'on peut en sortir, alors que Teddy Wilson va jouer plutôt le rôle des pianistes d'accompagnement, des pianistes qui savent tirer leur épingle du jeu quand on leur laisse un chorus en solo. Teddy Wilson est très influencé par le jeu des autres instrumentistes, donc il va aussi, comme l'avait fait Orleans avec les trompettistes, emprunter quelques tournures aux clarinettistes, aux saxophonistes, aux trompettistes.
Et à son tour, il fera école. Dès la fin des années 30, on peut dire que Teddy Wilson a des disciples comme Clyde Hart, comme Nat King Cole, ils viennent de là aussi.
Teddy Wilson a, grâce à son exposition médiatique importante du trio de Benny Goodman, tout d'un coup une notoriété extraordinaire. Mmh. Et tout le monde entend Teddy Wilson et tout le monde entend ce nouveau style. Si bien que très rapidement, à partir de 1935, il a des disciples, comme Clyde Hart, effectivement.
Si on revient un petit peu en arrière, il a rencontré Art Tatum à Toledo, dans l'Ohio. Ensuite, il va être freelance dans la ville de Chicago. Alors là, il va trouver Earl Hines, l'un de ses inspirateurs, qui va lui laisser de temps en temps le piano dans son orchestre au Grand Terrace. Et puis, une autre rencontre va compter, c'est celle de Benny Carter, le saxophoniste qui joue d'ailleurs aussi de la trompette et qui est un excellent arrangeur, et qui a un groupe qui s'appelle les Chocolate Dandies. Et il va faire appel au talent de Teddy Wilson. C'est là qu'on va l'entendre enregistrer pour la première fois.
Une des toutes premières séries d'enregistrements est celle qu'il fait avec les Chocolate Dandies. Il avait aussi enregistré avec Louis Armstrong, mais malheureusement, on ne l'entend
pas.
On ne l'entend
pas, oui. Alors qu'ici, on l'entend très distinctement au sein de ces Chocolate Dandies. Ça s'appelle Once Upon a Time. C'est une composition de Benny Carter. Nous sommes en 1933. Thank you. octobre 1933, les Chocolate Dandies, c'est l'orchestre réuni par Benny Carter, qui est ici non pas saxophoniste, mais trompettiste. Il en jouait d'ailleurs très bien.
Quel trompettiste. Aïe, aïe, aïe.
Et on entend très distinctement le jeune Teddy Wilson, qui a un petit peu plus de 20 ans, encore très marqué par l'ANCC. Il n'a pas encore complètement émancipé.
Non, c'est vraiment le Teddy Wilson du début, ça. On n'écoute pas ça souvent. Hein.
Ouais. Teddy Wilson qui est engagé parallèlement par Louis Armstrong et qui a enregistré aussi avec lui. C'est l'époque où il rencontre sa femme, Irène, qui était une excellente pianiste, elle aussi, et qui était très amie par la suite avec Billie Holiday. C'est à Irène Wilson que l'on doit notamment un standard connu, Some Other Spring.
Très beau standard.
Et puis, ils vont rencontrer John Hammond.
John Hammond est un intellectuel, il se trouve qu'il a beaucoup d'argent et que sa passion c'est le jazz. Donc il n'est pas obligé de travailler pour vivre et il va de boîte en boîte, il écoute la radio et il sait tout ce qui se passe dans le jazz. Il a des relations avec notamment Benny Carter mais aussi à peu près tous les musiciens de jazz importants.
C'est quelqu'un qui comptera jusqu'aux années 60, hein, qui ouais. découvrira aussi des gens de la pop musique,
de la protest song. Il a un flair extraordinaire, John Hammond.
Et qui était très engagé politiquement aussi, donc oui. Qui organisait beaucoup de choses très militantes. Teddy Wilson va donc faire des séances pour le label de John Hammond, qui s'appelle Brunswick. Pour cela, il va réunir des bons musiciens avec une certaine liberté de choix.
C'est lui qui décide, c'est pas John Hammond. Il a toujours pioché auprès des meilleurs musiciens qui se trouvaient disponibles pour faire ses séances. En général, les choses se passent très simplement. Il doit jouer quelques morceaux qui sont probablement déjà préparés à l'avance, et en particulier avec les vocalistes comme Billie Holiday. Et il les travaille un peu avec Billie quand c'est le cas. Et puis, il s'adjoint les services de quelques musiciens de l'orchestre de Duke Ellington, par exemple. Souvent Johnny Hodges, et de temps en autre Cootie Williams, il y a Harry Carney. Et puis d'autres fois, ce sont les musiciens de l'orchestre de Bézi, comme Lester Young, comme Joe Jones, comme Buck Clayton. Et puis d'autres fois, ça sera les personnes de Lancer Ford, et puis ceux de Chick Webb. Et à chaque fois, on se retrouve avec un nombre incroyable de vedettes dans un orchestre de 6 ou 7 musiciens qui sont là pour jouer pour le plaisir.
Ce sont vraiment des petits chefs-d'œuvre de cette période de l'histoire du jazz. On en écoutera quelques-uns tout à l'heure. Mais on va faire un petit détour par le piano solo parce qu'à cette époque, il enregistre aussi en solo. Et dès 1935, on peut l'entendre par exemple dans le Liza de George Gershwin. Thank you. Liza de George Gershwin, enregistrée en solo par Teddy Wilson, c'était le 31 juillet 1935 et il a donc 23 ans. Louis Mestier, vous avez rejoint le piano du studio 119 ici à Radio France pour le Matin des musiciens sur France Musique. Alors, vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples du style de piano de Teddy Wilson qui là est vraiment parvenu à maturité. Il y a une grande différence entre ce que l'on entendait en 1933 au sein de l'orchestre de Benny Carter, et puis le solo que l'on vient d'entendre qui est vraiment tout à fait typique de son style.
Oui, et puis il y a une grande différence avec le piano de Fats Waller et le piano d'Erlines aussi, et celui d'Art Tatum. Là, on a vraiment un styliste, il est mûr, son style est prêt.
Alors précisément, si on parle de Erlines par exemple, qu'est-ce qui reste de Erlines dans son jeu, cette manière de penser le phrasé de main droite?
Oui, ça reste. On n'a pas pu se rendre compte particulièrement sur ce morceau qu'on vient d'écouter, Liza, parce que ça allait trop vite, pour pouvoir caractériser l'influence d'Erlines. Mais quand on prend un morceau moins rapide, eh bien on se rend compte de l'utilisation comme un découpage rythmique particulier dans le phrasé de main droite chez Erlines. Ça, on l'entend chez Teddy Wilson aussi, parce que c'est comme si on jouait deux fois plus vite avec la main gauche et qu'on garde la même chose à la main droite.
Une façon de penser, ce qu'on appelle en dédoublant, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est comme si tout était dédoublé. Ça permet d'avoir une beaucoup plus grande sûreté rythmique de jouer de cette façon-là. C'est plus excitant et on est dans la période swing. On va vers une égalisation des accentuations avec une rythmique qui jouera vraiment les quatre temps égaux.
La main gauche maintenant, elle vient plutôt, elle, de Fats Waller, avec ce qu'on appelle donc les dixièmes de jouer dans la même main à l'octave supérieure, aller jusqu'à la tierce par exemple, de prendre le mi au-dessus du do.
Voilà, c'est ça. D'une seule main. Ce qu'on avait entendu dans Liza, par exemple, c'est une succession de dixièmes, comme ça. Sauf que là, je le faisais avec deux mains.
Bien sûr.
Mais... Et là, je l'ai fait avec une seule.
Alors, il peut utiliser aussi ce qu'on appelle les dixièmes brisés, quand il est en tempo plus rapide.
Mais pas à la façon des Striders, qui utilisaient les dixièmes brisés comme ça. Lui, il va faire, dans les tempos rapides, c'est-à-dire qu'avec la main gauche, il utilise d'abord avec son petit doigt la basse, et puis il complète avec la dixième juste après. Ça lui évite d'avoir à faire. Finalement, c'est plus confortable.
C'est plus confortable, c'est certain. Ce qui est intéressant dans le style de Teddy Wilson aussi, qui va être repris par beaucoup de ses suiveurs, c'est l'aménagement de petits arrangements. Je pense par exemple aux introductions.
Ah, il adore faire des belles introductions, Teddy Wilson. Il se les prépare probablement. Dans toutes ses séances d'enregistrement, les introductions de Teddy Wilson sont particulièrement bien soigné, et de la même façon les codas aussi. Donc il aime beaucoup faire... Et etc. Et là c'est parti. Ou dans les codas, il aime faire... si on joue par exemple Rosetta... des choses dans ce genre-là, c'est-à-dire une coda avec quatre mesures de plus.
Qui va être vraiment conclusive. Ouais. Oui. Sur le plan de l'harmonie, ça vient beaucoup de Art Tatum, on en a déjà parlé, mais il a des tournures harmoniques à lui, et puis une façon d'improviser qui est riche aussi sur le plan harmonique.
Il a une sûreté harmonique totale, mais il ne cherche pas la dissonance. Par contre, il aime beaucoup faire chanter toutes les voix à l'intérieur d'une harmonie. Par exemple, si on joue à « Can't Get Started »,
Et sur le plan harmonique, il va, quand il expose en tout cas une mélodie, il va la respecter, il va être au plus proche des harmonies initiales de la partition, quitte à s'en éloigner par la suite.
Teddy Wilson est un des pianistes de jazz qui respecte le plus la mélodie et l'harmonie dans l'exposé des morceaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle très souvent les pianistes de jazz, quand ils ont envie d'apprendre un morceau d'une façon correcte, avec les bonnes harmonies et la bonne mélodie, écoutent le disque de Teddy Wilson. Un autre dans ce cas est aussi Dave McKenna, malheureusement très peu connu.
Ce qui ne l'empêche pas, par la suite, au cours du développement, de moduler ou même de changer complètement de tonalité.
Et il aime beaucoup les changements de ton. Il est rare d'écouter un solo Teddy Wilson où il n'y a pas de changement de ton. Et là, pour Liza, par exemple, il a changé de ton. Ouais. Il était en mi bémol, il est passé en ré bémol et retour sur mi bémol.
C'est quelque chose que l'on retrouvera chez quelqu'un comme Mel Powell un peu plus tard, ou encore plus tard, chez Bill Evans, par exemple, qui aimait bien, au cours d'une même interprétation, jouer dans plusieurs tonalités différentes. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a un sens de la mise en place, un sens de l'espace tout à fait extraordinaire. Il ne remplit pas systématiquement, contrairement à d'autres.
Il n'y a pas beaucoup de pianistes qui ont sa parcimonie au milieu des années 30. Basie va nous l'apprendre et nous le montrer autant qu'il le faudra avec ses trios de la fin des années 30. Mais à l'époque de Teddy Wilson et de ses premiers enregistrements en orchestre, on entend un pianiste qui sait se taire et qui sait ouvrir des espaces où la rythmique fonctionne toute seule avant de repartir pour une phrase. Si bien que ça lui donne beaucoup de liberté rythmique, il a quelque chose aussi d'assez imprévisible, Teddy Wilson.
On va le retrouver tout à l'heure en petite formation, mais tout de suite, le voici de nouveau en solo, en novembre 1937, une chanson de Harold Arlen et Ted Koehler, « Between the Devil and the Deep Blue Sea ». C'était en 1937, Between the Devil and the Deep Blue Sea, par le pianiste Teddy Wilson. Alors là, c'est une période où il commence à être beaucoup plus connu, puisqu'il joue déjà avec Benny Goodman, Louis Mastier.
Oui, mais son style ne change pas.
En 1941, on le retrouve cette fois-ci dans une ballade, la ballade peut-être la plus jouée de l'époque, surtout depuis la version célèbre de Coleman Hawkins en 1939. Ici, nous sommes en avril 1941, Body and Soul. Magnifique version de Body and Soul enregistrée par Teddy Wilson en avril 1941 avec une harmonisation très personnelle, à un moment, une mise en place rythmique, une variété des formules rythmiques de main droite aussi très importante. C'est vraiment un très grand styliste, un inventeur aussi, un innovateur, Louis Mastier.
Ah, là, il est arrivé au maximum de ce qu'il peut nous produire. Il est toujours imprévisible, il se passe toujours quelque chose de musical. Vraiment, là, c'est du très grand art.
On l'a beaucoup entendu en solo jusqu'ici. On va le retrouver maintenant en chef de bande, à la tête de ces petites formations réunies à l'instigation de John Hammond. Et bien sûr, c'est là aussi que l'on découvre la jeune Billie Holiday. Elle n'a pratiquement pas enregistré avant de rencontrer Teddy Wilson.
Non, elle était pratiquement inconnue, effectivement.
Et Billie Holiday, ici en 1935. Elle est d'ailleurs bien entourée. Il y a Roy Eldridge à la trompette, Ben Webster au saxophone ténor, Hilton Jefferson à l'alto, Cecil Scott à la clarinette, Lawrence Lucy, guitariste, John Kirby, contrebasse, Cozy Cole à la batterie et bien sûr, le chef d'orchestre Teddy Wilson au piano, Billie Holiday, juillet 1935.
bright clouds hang in the air like toy balloons. Say there's a tang in the air that's made for honeymoons. What a hug, what a kiss, what a boy. What a gain, oh, what bliss, what a boy. Is it a wonder my heart is full of joy? What a night, what a moon, what a boy.
What a night, what a moon, what a boy, ou what a girl, en fait, l'original, je crois, Louis Mastier. Simplement, Billie Holiday l'a adapté à son propre cas.
Oui.
C'était en juillet 1935, une magnifique petite formation avec un arrangement probablement dû à la plume de Teddy Wilson, ou sinon à sa plume, en tout cas à sa direction dans le studio.
C'est ce qui se passait habituellement.
Et ces petites formations vont constituer un fond magnifique dans l'histoire du jazz de cette époque. On y trouve aussi parfois des blues. Alors c'est peut-être le souvenir de ses origines. En tout cas, il enregistre ici à Chicago, toujours avec Roy Aldridge à la trompette. Mais à ses côtés, il y a aussi Buster Bailey à la clarinette, Chu Berry au ténor. Et puis un tout jeune contrebassiste, il s'appelle Israel Crosby. Et bien sûr, c'est parce que l'on est à Chicago que l'on retrouve ce jeune contrebassiste qui fera parler de lui par la suite dans l'histoire du jazz. On est ici le 14 mai 1936. Blues in C sharp minor, enregistré en mai 1936 à Chicago par cette petite formation réunie autour du pianiste Teddy Wilson, avec notamment le tout jeune Israel Crosby, 17 ans, à la contrebasse. Une tonalité relativement malaisée pour les trompettistes et saxophonistes et clarinettistes, Louis Mastier.
Oui, même pour les pianistes d'ailleurs.
Do dièse mineur.
On se demande un peu pourquoi ils ont utiliser une tonalité pareille, mais en tout cas ça les empêche de faire des effets faciles parce qu'on n'est probablement pas dans les plans habituels pour faire des petites choses qui tombent facilement sous les doigts ou sous les lèvres. Il y avait peut-être un pari derrière tout ça.
Ça les condamne à une certaine sobriété, effet. On retrouve Teddy Wilson l'année suivante, toujours à la tête de ces petites formations. Là, il y a de nouveau Buster Bailey à la clarinette, il y a Buck Clayton à la trompette, et puis un couple d'amoureux platoniques, Billie Holiday en compagnie du ténor, du saxophoniste Lester Young. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va entendre Teddy Wilson prendre un solo tout en single note, donc en note simple, non pas en octave comme on pouvait l'entendre chez Earl Hines. Et ce qui permet aussi de bien l'entendre, évidemment, c'est que dans les studios, et puis aussi même sur scène à l'époque, on commence à utiliser le micro. Alors il a peut-être besoin de moins forcer que ses prédécesseurs.
Oui, il le dit dans son autobiographie, l'avènement du microphone lui a permis de s'émanciper des octaves frappées fort. Et il peut acquérir une certaine finesse dans son jeu, alors que sinon il n'aurait jamais été entendu dans les années 20.
Et nous faire bénéficier d'un magnifique toucher. J'ai cité presque tout le monde, il faut aussi compléter la section rythmique. Elle vient de l'orchestre de Count Basie, puisqu'il y a Freddie Green à la guitare, Walter Page à la basse et Joe Jones à la batterie.
Écoutez ce solo, c'est un des plus beaux de Teddy Wilson.
Thank you.
Magnifique dialogue entre Billie Holiday et Lester Young ici dans ce I'll Never Be The Same enregistré le 1er juin 1937 avec un très beau solo du leader Teddy Wilson, un sens de l'espace, une très grande liberté, une très grande initiative aussi, Louis Mastier.
C'est certainement une grille qui l'a intéressé. Il nous surprend énormément avec une inventivité incroyable. Et puis la façon de placer ses phrases rythmiques et mélodiques est tout à fait inimitable. Et en plus, Joe Jones fait respirer ses cymbales dans les trous. C'est un chef-d'œuvre absolu, ce truc-là.
Et Teddy Wilson sera évidemment le maître de beaucoup de pianistes qui vont s'inspirer de ce style de jeu, d'accompagnement et puis même de solo par la suite, Louis Mastier.
Tous les pianistes sont inspirés par Teddy Wilson, ils n'ont pas pu faire autrement, comme Tatum. Mais sauf que Teddy Wilson a créé un style qui est exploitable. C'est-à-dire qu'on peut bien entendre ce qu'il fait, le décomposer, le reproduire, parce que ce n'est pas trop virtuose. On peut travailler là-dessus. Ce sont des bases pour le futur. Tous les pianistes contemporains se sont inspirés de lui, même probablement à Tatum. Et puis, les pianistes qui viendront après, comme tous les boppers, mais aussi Oscar Peterson, Errol Garner, Josh Shearing, Hank Jones, tous ces gens qui ne sont pas forcément que boppers, ont énormément écouté Teddy Wilson. Même Bill Evans.
Le même jour, la même équipe enregistre Foolin' Myself. On y retrouve bien sûr Billie Holiday, un Lester Young absolument impérial et toujours le même sens de l'espace chez Teddy Wilson. Billie Holiday chantait « Fooling Myself », c'était en juin 1937. On a beaucoup évoqué ces petits groupes, ces petits combos réunis par le pianiste Teddy Wilson au milieu des années 30. C'est à la même époque qu'il se fait connaître du grand public, Teddy Wilson, Louis Mastier, tout simplement parce qu'il est embauché par Benny Goodman, et là ça va être vraiment la folie. Alors comment se sont-ils rencontrés ?
Un jour, chez Mildred Bailey, grande chanteuse de l'époque, se tient une surprise party et Benny Goodman et Teddy Wilson sont invités. Et John Hammond est là. C'était le beau-frère de Benny Goodman. Et puis il y a aussi un batteur, et Benny Goodman et Teddy Wilson, avec ce batteur dont j'ai oublié le nom, mais qui n'est pas encore Jane Krupa, font une jam session. John Hammond entend ça, et tout le monde trouve que c'est très bien, et qu'il faudrait arriver à faire quelque chose de plus sérieux. Et c'est ainsi que Benny Goodman propose à Teddy Wilson de venir travailler avec lui et de former une sorte de petit combo particulier lors de ses concerts et de ses émissions de radio. C'est le trio, alors que le grand orchestre est utilisé pour faire danser tout le monde. De temps en temps, il y a quelques morceaux en trio.
Alors, ce qui est assez révolutionnaire et même presque scandaleux à l'époque, c'est que c'est un orchestre mixte.
Mais c'est la première fois que ça se produit.
Mixte au sens racial, hein, au sens de la couleur de peau.
Oui, il y a des orchestres mixtes qui ont existé auparavant dans l'histoire du jazz, mais c'était des orchestres de studio. Mais là, on est sur scène. Et il y a un noir sur scène avec les blancs.
Et c'est Teddy Wilson. Et c'est Teddy Wilson. En l'occurrence, alors ça pose des problèmes de voyage, ça pose des problèmes d'attendance, ça pose des problèmes pour le logement, pour les repas, pour aller tout simplement aux toilettes. Enfin, c'est une époque où l'Amérique est totalement ségrégationniste.
Ah oui, oui, c'est inimaginable.
Et bien sûr, ils vont parcourir les États-Unis de long en large, puisque c'est un orchestre qui aura énormément de succès. Et ils vont intégrer un deuxième musicien noir, ce sera le vibraphoniste Lionel Hampton, à partir de 1936. On les retrouve ici en concert à Carnegie Hall, la très prestigieuse salle de New York, en 1938. Benny Goodman, Teddy Wilson, Lionel Hampton et Gene Krupa.
Thank you.
Le public enthousiaste de Carnegie Hall à New York le 16 janvier 1938 pour applaudir le quartet du clarinettiste Benny Goodman avec Gene Krupa à la batterie, Lionel Hampton au vibraphone et bien sûr le pianiste T.T. Wilson. Ils vont jouer pendant 4 ans ensemble, d'abord en trio puis en quartet. Ensuite, on en parlera plus longuement tout à l'heure, T.T. Wilson va tenter d'autres expériences à partir de 1939, mais ils vont se retrouver régulièrement jusqu'à la fin. Ils sont morts tous les deux dans les années 80, Benny Goodman et T.T. Wilson. Et dans les années 40, ils continuent à travailler ensemble régulièrement.
Oui, de temps en temps. Il faut dire à propos de ces enregistrements du Carnegie Hall qu'ils révèlent tout à fait ce qu'était ce trio et ce quartet. Les gens étaient fous de ça. T.T. Wilson le dit dans son autobiographie. Il dit, quelques mois auparavant, on jouait aussi ça et personne venait nous arracher notre chemise et demander des autographes. Et là, tout d'un coup, on était devenus des vedettes absolument incroyables. J'ai jamais rien compris. Et il dit, un jour, je me suis retourné vers Benny en lui disant, tu comprends ce qui se passe ? Il dit, non.
On retrouve Benny Goodman et T.T. Wilson en juin 1944, cette fois-ci en compagnie de Sid Vicious à la contrebasse et de Cozy Cole à la batterie. After You've Gone, on entend particulièrement bien ici le piano de T.T. Wilson. After You've Gone, juin 1944, le quartet de Benny Goodman avec T.T. Wilson, Sid Vicious et Cozy Cole. Une belle histoire ici, un magnifique solo de T.T. Wilson. T.T. Wilson qui a envie de prendre sa liberté à partir de 1939 et pourtant ça marchait très bien avec Benny Goodman. Alors qu'est-ce qu'il voulait, T.T. Wilson ? Il voulait avoir un orchestre sous son propre nom ?
Oui, effectivement, c'est ce qu'il dit dans son autobiographie. Il tente le coup.
Alors, il s'entoure pas mal, hein. Il y a de très bons musiciens dans cette formation.
Oui, oui, oui. À la section rythmique, il y a Al Casey, il y a J.C. Heard, il y a Al Hall. Et puis devant, il y a Harold Baker à la trompette. Et puis, il y a Ben Webster aussi, son vieil ami.
C'est lui qui signe les arrangements. Enfin, il partage la tâche avec Buster Harding. Il y met lui-même pas mal de ses économies. Et puis, le projet va tourner court.
D'après ce qu'il raconte, il semblerait que l'orchestre n'ait pas eu finalement assez d'individualité ou de caractère particulier pour pouvoir accrocher le public face à beaucoup d'autres orchestres prestigieux.
Au moment où il s'arrête, en 1940, il y a un magnifique orchestre chez Ellington, par exemple, à cette époque-là. C'est peut-être même la plus belle année d'Ellington, en tout cas dans cette période-là. Évidemment, il y a à Bézil, il y en a d'autres. Donc la concurrence est rude, peut-être.
Oui, ça c'est sûr que... pas facile.
Alors, il est de nouveau freelance. Il va fonder quelques petits orchestres avec des trompettistes comme Bill Coleman ou Doug Chatham. Avec Jimmy Hamilton, on va retrouver certains des musiciens qui participaient à l'aventure du grand orchestre. Il va s'installer pour quelque temps au Café Society. C'est downtown à Manhattan. Il va être en quelque sorte l'orchestre maison.
On le voit d'ailleurs dans un film consacré aux Boogie Woogie Boys. L'orchestre qui joue en alternance avec Pete Johnson et Albert Ammons est l'orchestre de Teddy Wilson et c'est eux qui accompagnent la chanteuse Lena Horne.
Alors ils enregistrent des émissions de radio, ils enregistrent même des V-disques, c'était les disques dits de la victoire qui étaient faits pour les soldats américains entrés en guerre. Ils enregistrent pour quelques labels comme Columbia ou Musicraft, donc on a des témoignages assez nombreux de ce qui se passe autour de Teddy Wilson dans ces années-là.
Oui, et puis il fait beaucoup d'émissions de radio, une grande partie d'entre elles ont été conservées et éditées ensuite.
On les entend ici autour de Teddy Wilson avec Charlie Shavers à la trompette, Red Norvo au vibraphone avec lequel il s'entend particulièrement bien. Il y a Remo Palmieri à la guitare, Al Hall à la contrebasse et Spex Powell à la batterie. C'est à la fin 1944 ou début 1945 à New York, on n'est pas tout à fait sûr de la date. Le thème c'est « How High the Moon ». How High the Moon, Charlie Shavers, Red Norvo, Remo Palmieri, Teddy Wilson, Al Hall et Spex Powell. C'était ces petites formations réunies dans les années 40 autour de Teddy Wilson. Teddy Wilson qui va s'orienter ensuite pendant quelques années vers l'enseignement. Mais ce n'était pas sa première tentative en la matière. Déjà à la fin des années 30, il avait monté une sorte d'école de piano jazz.
Oui, ça s'appelait la Teddy Wilson's School of Pianists.
Et puis il avait enregistré des petits disques pour ses élèves qu'on a édités beaucoup plus tard.
Qui sont très très bien d'ailleurs, mais malheureusement par défaut de disponibilité, Teddy Wilson avait dû arrêter cette activité. Et puis il la reprend et on lui crée un poste, la Juilliard School à New York. C'est un de ses fidèles auditeurs du Café Society qui lui propose ça un jour. Et donc il accepte allègrement et pendant longtemps, il enseignera le piano jazz très régulièrement, plusieurs fois par semaine, avec deux pianos, avec un élève et lui au piano, chacun a un piano.
Oui, parce que la Juilliard School, c'était plutôt une école de musique classique et c'est toujours le cas aujourd'hui à New York. C'est la plus célèbre, en tout cas, des écoles new-yorkaises. Et là, il a repris des cours avec un pianiste classique, avec un professeur. Pour retravailler sa technique, on a longtemps dit que c'était Walter Gieseking. Il semble que ce ne soit pas lui.
En tout cas, Teddy Wilson dit que ce n'est pas Walter Gieseking.
Mais il se connaissait avec Gieseking.
Oui, parce que Gieseking allait l'écouter au Café Society.
Gieseking qui était un spécialiste, notamment de Debussy, mais pas seulement. Et puis en même temps, il entre dans les studios pour faire le musicien, notamment pour les studios de télévision à New York.
Oui, et la radio aussi.
Il va revenir tout de même sur scène assez régulièrement, tout simplement parce que on va lui proposer de participer au film The Benny Goodman Story au milieu des années 50. Ça va le titiller un petit peu pour retrouver la scène.
Il avait beaucoup aimé tourner. C'était la première fois qu'il participait à un film hollywoodien. Ça l'a réorienté vers le public.
mais il choisira de revenir dans une formule plus légère, tout simplement en trio avec contrebasse et batterie. Un trio où les musiciens sont plus des accompagnateurs que des partenaires à part égale. Là, c'est vraiment le trio où le pianiste est devant.
Oui, oui, les accompagnateurs sont accompagnateurs, c'est tout.
C'est Billy Taylor à la contrebasse, par exemple, et Kirk Purnell à la batterie, que l'on entend ici en 1947 dans Whispering. Whispering, enregistré en novembre 1947 par le trio de Teddy Wilson avec Billy Taylor à la contrebasse et Kirk Purnell à la batterie. On entend bien ici encore la main gauche de Teddy Wilson, Louis Massier. C'est quelque chose qui va encore alléger plus tard.
Oui, cette main gauche qui a encore le parfum du stride, même si elle a été déjà très simplifiée, va être encore beaucoup plus simplifiée plus tard. Teddy Wilson n'utilisera pratiquement plus les allers-retours et simplement utilisera des ponctuations et beaucoup de montées et descentes en dixième.
On le retrouve à la fin des années 50 avec son trio, Al Lucas à la contrebasse et Bert Dale à la batterie. Alors Bert Dale, c'était un musicien d'origine scandinave, il avait simplifié son nom.
C'est le Bert Dalader de l'indicatif de tout à l'heure.
Là, c'est en 1959 et c'est un extrait d'un très très beau disque consacré au répertoire, aux chansons de George Gershwin. Le voici dans « Bess, you is my woman now ». Thank you. Bess, You Is My Woman Now, le trio de Teddy Wilson avec Al Lucas et Bird Dale en janvier 1959. Un très très beau disque, un bel enregistrement avec un magnifique toucher ici de Teddy Wilson.
Louis oui, Mathieu. C'est très bien rendu avec cet enregistrement superbe et un beau piano certainement.
Teddy Wilson qui reste dans l'esprit, tout du moins, puisque les pianistes qui vont le suivre vont tous s'inspirer de son style, en tout cas y trouver quelque chose. Et pourtant, aujourd'hui, on ne parle plus guère de ce type de pianiste et de Teddy Wilson en particulier, Louis Masti. Il faut le réhabiliter. Il faut peut-être aussi enseigner cette manière de jouer. Alors ça veut dire apprendre les disques, les écouter, les relever, se mettre à ce style. C'est un styliste aussi.
Il a un style absolument unique, on le reconnaît tout de suite. Et puis, il a une telle classe, un tel bon goût, que c'est un vrai styliste. Oui, oui, ça c'est certain.
Dans sa génération, il y a peut-être quelqu'un qu'on a pu connaître jusqu'à très tard, puisqu'il est mort très âgé, c'est Hank Jones, qui est un petit peu dans le même esprit que Teddy Wilson, même si parfois il a été dans des rivages un peu plus modernes.
Hank Jones a énormément écouté Teddy Wilson, il s'est inspiré de son toucher, de sa construction de phrases. Et bien sûr, il a ajouté à l'influence de Teddy Wilson celle de Tay-Two, mais du bebop. Mais on entend Teddy Wilson à plein nez, à pleine oreille, chez Hank Jones, bien sûr.
On va se quitter, Louis Mastier, en retrouvant Lester Young aux côtés de Teddy Wilson dans une très bonne séance d'enregistrement en 1956. Et pourtant, à la fin des années 50, Lester Young n'était pas toujours en pleine forme. C'est le cas ici pour cette séance où le trio de Teddy Wilson est complété par le bassiste Gene Ramey et le batteur Joe Jones. Là aussi, ce sont des retrouvailles. Love me or leave me. Merci beaucoup Louis Mastier d'être venu ce matin évoquer la personnalité et le style de Teddy Wilson, le pianiste qu'il faut réhabiliter, hein, même s'il est très connu dans l'histoire du jazz.
Ah, moi je demande que ça, Teddy Wilson, c'est un de mes maîtres.
Merci à Jean-Louis Deloncle et Guillaume Ledu pour la prise de son. Léo Duroy a accordé le piano. Dorothée Gold nous a aidé à préparer cette émission que Christine Amado a réalisée. Comme chaque semaine, bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Et je vous engage à vous abonner au podcast.